il n'est point de pire tourment à voir la trahison chez soi, autour de soi, être traqué, dépossédé, anéanti par ceux que vous aimez et qui vous aiment. Brusquement, cette idée affreuse lui apparut. Mais vous m'aimez toutes les deux pourtant. Il vit leurs yeux s'obscurcir de larmes. Il fut pris d'une infinie tristesse dans cette fin si calme d'un beau jour. Toute sa gaieté, toute sa bonté qui venait de sa passion de la vie en était bouleversée. Ah, ma chérie, et toi, ma pauvre fille, vous faites ça pour mon bonheur, n'est-ce pas? Mais, hélas, que nous allons être malheureux. Chapitre 2. Le lendemain matin, Clotilde, dès 6 heures, se réveilla. Elle s'était mise au lit fâchée avec Pascal. Il se boudait et son premier sentiment fut un malaise, un chagrin sourd, le besoin immédiat de se réconcilier pour ne pas garder sur son cœur le gros poids qu'elle y retrouvait. Vivement, sautant du lit, elle était allée entr'ouvrir les volets des 2 fenêtres. Déjà haut, le soleil entra, coupa la chambre de 2 barres d'or. Dans cette pièce ensommeillée, toute moite d'une bonne odeur de jeunesse, la claire matinée apportait de petits souffles d'une gaieté fraîche. Tandis que, revenue s'asseoir au bord du matelas, la jeune fille demeurait un instant songeuse, simplement vêtue de son étroite chemise, qui semblait encore la mincir, avec ses jambes longues et fuselées, son torse élancé et fort, à la gorge ronde, au cou rond, aux bras ronds et souples, et sa nuque, ses épaules adorables, étaient un lait pur, une soie blanche, polie, d'une infinie douceur. Longtemps, à l'âge ingrat de 12 à 18 ans, elle avait paru trop grande, dégingandée, montant aux arbres comme un garçon. Puis, du galopin sans sexe, s'était dégagée cette fine créature de charme et d'amour. Les yeux perdus, elle continuait à regarder les murs de la chambre. Bien que la souleyade datât du siècle dernier, on avait dû la remeubler sous le premier empire, car il y avait là, pour tenture, une ancienne indienne imprimée, représentant des bustes de sphinx, dans des enroulements de couronnes de chêne. Autrefois d'un rouge vif, cette indienne était devenue rose, d'un vague rose qui tournait à l'orange. Les rideaux des 2 fenêtres et du lit existaient, mais il avait fallu les faire nettoyer, ce qui les avait pâlis encore. Et c'était vraiment exquis, cette pourpre effacée, ce ton d'aurore si délicatement doux. Quant au lit, tendu de la même étoffe, il tombait d'une vétusté telle qu'on l'avait remplacé par un autre lit, pris dans une pièce voisine, un autre lit empire, bas et très large, en acajou massif, garni de cuivre, dont les 4 colonnes d'angle portaient aussi des bustes de sphinx, pareils à ceux de la tenture. D'ailleurs, le reste du mobilier était appareillé. Une armoire à portes pleines et à colonnes, une commode à marbre blanc cerclée d'une galerie, une haute psyché monumentale, une chaise longue aux pieds raidis, des sièges au dossier droit en forme de lyre. Mais un couvre-pied, fait d'une ancienne jupe de soie Louis XV, égayait le lit majestueux, tenant le milieu du panneau en face des fenêtres. Tout un amas de coussins rendait moelleuse la dure chaise longue, et il y avait 2 étagères et une table garnie également de vieilles soies brochées de fleurs découvertes au fond d'un placard. Clotilde enfin mit ses bas, enfila un peignoir de piqué blanc et, ramassant du bout des pieds ses mules de toile grise, elle courut dans son cabinet de toilette, une pièce de derrière qui donnait sur l'autre façade. Elle l'avait fait simplement tendre de coutil écru à rayures bleues. Et il ne s'y trouvait que des meubles de sapin verni, la toilette, deux armoires, des chaises. On l'y sentait pourtant d'une coquetterie naturelle et fine, très femme. Cela avait poussé chez elle en même temps que la beauté. À côté de la têtue, de la garçonnière qu'elle restait parfois, elle était devenue une soumise, une tendre, aimante à être aimée. La vérité était qu'elle avait grandi librement, n'ayant jamais appris qu'à lire et à écrire, s'étant fait ensuite d'elle-même une instruction assez vaste en aidant son oncle. Mais il n'y avait eu aucun plan arrêté entre eux. Elle s'était seulement passionnée pour l'histoire naturelle, ce qui lui avait tout révélé de l'homme et de la femme. Et elle gardait sa pudeur de vierge comme un fruit que nulle main n'a touché, sans doute grâce à son attente ignorée et religieuse de l'amour, ce sentiment profond de femme qui lui faisait réserver le don de tout son être, son anéantissement dans l'homme qu'elle aimerait. Elle releva ses cheveux, se lava à grande eau. Puis, cédant à son impatience, elle revint ouvrir doucement la porte de sa chambre et se risqua à traverser sur la pointe des pieds, sans bruit, la vaste salle de travail. Les volets étaient fermés encore, mais elle voyait assez clair pour ne pas se heurter aux meubles. Lorsqu'elle fut à l'autre bout, devant la porte de la chambre du docteur, elle se pencha, retenant son haleine. Était-il levé déjà? Que pouvait-il faire? Elle l'entendit nettement qui marchait à petits pas, s'habillant sans doute. Jamais elle n'entrait dans cette chambre où il aimait à cacher certains travaux et qui restait close ainsi qu'un tabernacle. Une anxiété l'avait prise, celle d'être trouvée là par lui s'il poussait la porte. Et c'était un grand trouble, une révolte de son orgueil et un désir de montrer sa soumission. Un instant, son besoin de se réconcilier devint si fort qu'elle fut sur le point de frapper. Puis, comme le bruit des pas se rapprochait, elle se sauva follement. Jusqu'à 8 heures, Clotilde s'agita dans une impatience croissante. À chaque minute, elle regardait la pendule sur la cheminée de sa chambre, une pendule empire de bronze doré, une borne contre laquelle l'amour souriant contemplait le temps endormi. C'était d'habitude